Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 7 juillet 2016. Au sommaire ce soir...
Au moins 19 morts dans une bousculade au Ghana lors de la célébration de l'Aïd el-Fitr.
Présidentielle en RDC, Moïse Katumbi se met d'accord avec Étienne Tshisekedi. Objectif premier, forcer le pouvoir à organiser les élections en 2016, selon la Constitution.
Ici aux États-Unis, un policier abat un noir dans le Minnesota au lendemain d'un incident similaire en Louisiane.
Oui, on est là pour protéger le peuple. Et ce qu'on voit, celle-ci, vraiment, ça me rend triste un peu.
Politique américaine, offensive de charme de Donald Trump et déposition du directeur du FBI devant le Congrès sur les emails d'Hillary Clinton.
Euro 2016, qui affrontera le Portugal de Cristiano Ronaldo en finale? La France ou l'Allemagne? La réponse dans quelques heures.
Maintenant, le journal.
Aux États-Unis, la police de nouveau dans le collimateur. Une vidéo montrant les derniers moments d'un Africain-Américain abattu par un policier dans le Minnesota est devenue virale sur Internet. C'est tout juste après une affaire similaire en Louisiane, réveillant le spectre des brutalités policières. Jacques Aristide.
La vidéo, filmée avec un téléphone portable par une femme identifiée comme Lavish Reynolds, a été diffusée en direct sur Facebook. On y entend la femme dire que son petit ami s'en est allé juste comme ça et d'ajouter « Vous lui avez tiré 4 balles dessus, monsieur ». À côté d'elle, dans une voiture, on peut voir son compagnon agonisant filant de Castille, un employé d'une cantine scolaire de 32 ans, atteint par balle et son t-shirt maculé de sang. La femme explique que le policier, qui procédait à un contrôle routier, a tiré sur son ami alors qu'il cherchait ses papiers d'identité. Selon elle, filant de Castille avait prévenu le policier qu'il possédait une arme pour laquelle il avait un permis. La police a confirmé pour sa part la mort d'un homme tard hier à Falcon Heights dans le Minnesota. Cette affaire intervient après un autre homicide. Alton Sterling, un Africain-Américain de 37 ans, a été abattu par la police avant-hier à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Les images et une vidéo de cet incident ont été largement diffusées sur le net. Les autorités américaines ont ouvert une enquête fédérale.
Et pour des photos de l'incident survenu en Louisiane, visitez voafrique.com.
Politique congolaise, les choses s'accélèrent du côté de l'opposition. Ce jeudi, Moïse Katumbi et Étienne Tshisekedi ont annoncé leur accord pour l'élection présidentielle à venir. Détail, Nicolas Pinault.
Oui, c'est sur son compte Twitter que l'ancien gouverneur du Katanga a dévoilé une photo en compagnie d'Étienne Tshisekedi depuis Bruxelles, unis pour le bien de la RDC et l'avènement de la démocratie en cette année électorale, a déclaré M. Katumbi. Le leader de l'UDPS a donc reçu celui qui affirme toujours être candidat du G7 pour la prochaine présidentielle en RDC. Officiellement, il n'a pas été question de candidature entre les deux hommes qui ambitionnent toujours de succéder à Joseph Kabila, dont le mandat s'achève en décembre prochain et qui ne peut se représenter en vertu de la constitution actuelle. Plus tôt cette semaine, Moïse Katumbi avait annoncé son retour prochain en RDC en dépit des ennuis judiciaires auxquels il fait face depuis quelque temps. Inculpé pour recrutement de mercenaires, le milliardaire congolais a été autorisé à aller se faire soigner en Europe. Il a récemment été condamné à 3 ans de prison pour spoliation immobilière et à une amende $1 million.
Au Ghana, au moins 9 personnes ont été tuées hier soir dans une bousculade pendant la célébration de fin de Ramadan à Koumassi, dans le centre du pays. Le point avec Idriss Fall.
6 femmes et 3 hommes ont été tués, selon Nouridine Hamidan, conseiller municipal à Asokore Mampong, un quartier de Koumassi. 6 personnes ont également été blessées, dont une grièvement. Un centre communautaire de la ville accueillait la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Moubarak Mohamed Muntaka, membre local du Parlement, précise que la rencontre devait se terminer au plus tard à 21h parce que dans le passé, de telles célébrations ont souvent été marquées par des bagarres entre des jeunes de quartiers rivaux. Un groupe estimé à 300 personnes s'est dirigé vers la salle et des heurts auraient éclaté. Les gens ont tenté de sortir dans la précipitation. Certains disent que les lumières étaient allumées, d'autres affirment que le compteur électrique a projeté des étincelles, ce qui a semé la panique. les autorités ont convoqué une réunion de sécurité pour tenter de déterminer les causes précises de l'incident.
Dialogue de sortie de crise au Burundi, les pourparlers relancés en mai après plusieurs mois de blocage ont été reportés de samedi à mardi à Arusha en Tanzanie. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire particulier du médiateur dans le conflit burundais, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa.
Burundi toujours, Human Rights Watch dénonce les abus commis par les services secrets qui dépendent directement du président Pierre Nkurunziza. Les agents du service national de renseignement ont de plus en plus recours à la torture contre les opposants présumés. C'est ce qu'affirme l'organisation américaine des droits de l'homme. Les membres de la police et les Imbonera Kure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de milice, se sont également rendus responsables de nombreux abus. Selon le rapport de Human Rights Watch publié ce jeudi, les agents du SNR ont frappé des détenus à coups de marteau et de barres en acier, telles celles utilisées dans la construction. Ils leur ont planté des barres en acier aiguisées dans les jambes, ont versé du plastique fondu sur eux, ont noué des cordes autour des parties génitales des hommes et leur ont envoyé des décharges électriques, écrit Human Rights Watch.
Vers un retrait de l'AMISOM, l'Union africaine a commencé à plancher sur le départ de sa force basée en Somalie à compter d'octobre 2018, ce qui ressort des dernières délibérations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors de sa 608e rencontre le 29 juin. Les responsabilités sécuritaires reviendraient alors à l'armée somalienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La chancelière allemande Angela Merkel a défendu aujourd'hui le renforcement de l'OTAN à l'Est, justifié, dit-elle, par l'attitude de la Russie en Ukraine. Cette déclaration intervient à la veille du sommet des chefs d'État ou de gouvernement de l'Alliance Atlantique à Varsovie. Les alliés se sont engagés dans une expansion sans précédent depuis 25 ans. De nouvelles forces seront déployées à partir de l'an prochain en Pologne et dans les Pays-Baltes.
Le directeur de la Sûreté fédérale américaine, FBI, James Comey, a réitéré aujourd'hui devant une commission du Congrès son assertion de non-culpabilité pénale dans l'affaire des emails de la candidate démocrate Hillary Clinton. Il a défendu sa recommandation de ne pas poursuivre l'ancienne secrétaire d'État, bien qu'il ait qualifié ses actions de grande négligence. Les républicains et la campagne de Donald Trump sont furieux et accusent le patron du FBI d'incohérence. La ministre de la Justice, Loretta Lynch, avait promis d'accepter les recommandations des enquêteurs.
Les sanctions financières américaines contre Kim Jong-un sont une déclaration de guerre, selon la Corée du Nord. Washington avait annoncé hier des mesures sans inédites contre le leader communiste à cause des violations répétées de Pyongyang dans le domaine nucléaire et des tests de missiles interdits par les Nations Unies.
Qui va succéder à David Cameron après le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Boris Johnson, leader du Brexit, ayant déclaré forfait, tous les regards se portent maintenant vers la ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui a gardé un profil bas pendant la campagne et fait figure de candidate de consensus. Le Sunday Times l'a même présentée comme la seule figure capable d'unifier les factions rivales du Parti conservateur. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
On passe au sport à présent dans cette émission, le journal de l'Euro avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
La deuxième demi-finale France-Allemagne, c'est ce soir, 19h, temps universel à Marseille.
30 degrés sur le terrain et 90 voire 120 minutes pour monter au zénith du foot européen. L'Allemagne et la France s'affrontent et le vainqueur rejoindra en finale le Portugal de Cristiano Ronaldo. Paul Pogba et ses coéquipiers veulent y croire. Je ne pense pas qu'on soit favori parce qu'on ne joue pas contre l'équipe de France, mais contre tout un pays, a répondu le sélectionneur allemand Joachim Löw. La Mannschaft sera privée d'éléments majeurs. Hummels suspendu, Gomez et Khedira forfait. Après sa qualification contre l'Italie, au terme d'une séance de tirs au but irrespirable. Mais ce groupe allemand a suffisamment de ressources pour briser les espoirs de la France. À l'image de son buteur Thomas Müller, muet pour l'instant, mais capable de se réveiller à tout moment. On rappelle, le coup d'envoi, c'est à 19h, temps universel.
Ans ans après, le Portugal en finale de l'Euro.
Les Portugais ont logiquement battu les Gallois 2-0 hier à Lyon lors de la demi-finale de l'Euro. Nani et Cristiano Ronaldo buteurs lors de ce match. Le Pays de Galles de Gareth Bale va donc rentrer à Cardiff avec tous les honneurs malgré cette défaite. Retour sur cette rencontre avec Jean-Roger Billon.
12 ans après la France subie contre la Grèce lors de l'Euro 2004, le Portugal jouera de nouveau une finale d'un championnat d'Europe. La sélection haut de Cristiano Ronaldo a signé sa première victoire dans le tournoi avant prolongation. Après une première période terne, le Portugal a ouvert le score en début de seconde période par l'intermédiaire de Cristiano Ronaldo à la 50e minute avant que Nani, à la 53e minute, n'offre un succès plus large à son équipe. Le Portugal l'emporte donc logiquement à la fin du match. Les hommes de Fernando Santos ne sont plus qu'à 90 minutes d'un exploit retentissant. En finale, le Portugal affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale entre l'équipe de France et l'Allemagne qui aura lieu ce jeudi 7 juillet à Marseille. Quoi qu'il arrive, les hommes de Fernando Santos affronteront donc une de leurs bêtes noir lors de la finale dimanche 10 juillet au Stade de France à Saint-Denis. Toujours en quête d'un premier titre international, la sélection haut disputera la deuxième finale de son histoire dans un championnat d'Europe.
Et 12 ans après, le Portugal retrouve la finale d'une compétition internationale. La dernière fois, c'était lors de l'Euro en 2004 à domicile. Mais les Portugais n'ont pas eu un chemin facile jusqu'en finale. Retour sur ce parcours avec Christian Mpanzu.
Décrié, même moqué pour son style de jeu, le Portugal a dû faire preuve d'un grand sang-froid durant toute la compétition. Les Portugais débutent le tournoi dans un groupe à leur portée, mais font un match nul décevant face à une très surprenante équipe d'Islande. L'inefficacité offensive des coéquipiers de Cristiano Ronaldo est pointée du doigt. Un Ronaldo en panne d'inspiration qui manque un pénalty décisif lors du deuxième match face à l'Autriche. Pire encore, le Portugal est mené à 3 reprises contre la Hongrie, mais revient à chaque fois au score pour faire match nul 3-2 et se qualifie notamment grâce à un doublé de Ronaldo. Face à la Croatie en 8e de finale, le match est tendu et c'est en prolongation à la 117e minute que le Portugal s'impose 1-0. Le suspense est même plus grand contre la Pologne en quart. C'est au tir au but que les hommes de Fernando Santos s'imposent. Il faudra attendre la demi-finale contre le Pays de Galles pour voir une victoire portugaise dans le temps réglementaire 2-0, dont un but de Ronaldo qui égale le record de buts dans un Euro de Michel Platini. Ultime rencontre dimanche en finale pour enfin remporter un titre international. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Retour aussi sur le demi-finaliste malheureux, le Pays de Galles. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouet.
Bonjour. L'élimination du pays de Galles mercredi à Lyon a non seulement confirmé le Brexit britannique, mais aussi mis fin à la révolte des Brexit, un des grands enseignements de cet héros. En effet, la chevauchée fantastique du pays de Galles, la sensation islandaise, le retour de la Pologne et de la Hongrie, la qualification des 4 nations britanniques au second tour sont quelques indices du nivellement de valeur qui caractérise le football européen d'aujourd'hui. L'élimination progressive de ces révélations est justifiée par la pauvreté des bancs de touche, confrontés à la longueur de la compétition. Sur ce plan, les grandes formations ont des possibilités de rechange plus variées. Là où, pour les petits, la moindre suspension ou blessure d'un joueur majeur prend la dimension d'une catastrophe. Dans ce cas d'espèce, il est incontestable que l'absence de l'animateur de jeu gallois, Aaron Ramsey, a considérablement diminué les capacités de nuisance de l'équipe britannique dans sa demi-finale contre le Portugal. Gareth Bale et Sele n'a pu aligner que quelques mètres en début de rencontre et en vain. Les Portugais ont eu l'intelligence de rester prudents et patients dans l'attente du coup d'éclat de la 50e-53e minute qui va leur offrir la qualification pour une affiche de finale plus conforme aux normes. Qu'à cela ne tienne, et quoi qu'il arrive, cet Euro 2016 aura été marqué par la révolte des petits et nul doute que ceci n'est qu'un début. À bientôt.
Le reste de l'actualité sportive, en bref, et on commence par le tennis.
Serena Williams a décroché sa qualification pour une 9e finale à Wimbledon en corrigeant la Russe Elena Svenina en moins de 50 minutes. La numéro 1 mondiale s'est imposée en 6-2-6-0 contre la surprise russe qui a bientôt 30 ans, vivait sa première demi-finale majeure.
Le Tour de France cycliste.
Un sprint encore gagnant a forgé un peu plus la légende du Britannique Mark Cavendish, vainqueur pour la 3e fois depuis le départ du Tour de France à Montauban où il enlève la 6e étape. Au général, le Belge Greg Van Avermaet conserve le maillot jaune.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Linden.
La Banque centrale du Nigeria, CBN, minimise les craintes d'une crise bancaire dans le pays, qualifiant d'infondées des rumeurs selon lesquelles des établissements de crédit seraient en difficulté. La CBN réitère fermement que ces rumeurs et spéculations sont fausses et ne reflètent pas la santé actuelle des banques et de l'ensemble du secteur bancaire du Nigeria. Le site internet karwangu.com, basé à Kinshasa, fait peau neuve. Le premier portail de petites annonces automobiles en République démocratique du Congo vient de bénéficier de fonds suite à l'entrée récente dans son capital de Frontières DV, un fonds d'investissement spécialisé dans les petites annonces dans les pays émergents. BGFI Cameroun, filiale du groupe bancaire gabonais, apporte 24 milliards de francs CFA pour un complexe olympique à Douala. Ce prêt représente la contrepartie camerounaise à la construction du complexe sportif de Japoma à l'est de Douala, dont le stade de 50 000 places accueillera les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019.
Morgane Guériec et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Tchad.
Avec la grogne des maîtres communautaires en raison du non-paiement de leurs subsides par l'État depuis plus de 2 ans. Il prévoit des actions pacifiques dans les jours à venir à N'Djamena, la capitale. Correspondance d'André Kodmajingar.
Ils sont plus de 15 000 maîtres communautaires à servir dans l'enseignement primaire pour le compte du ministère de l'Éducation nationale sur l'ensemble du territoire tchadien. À ce jour, ils accusent 25 mois d'arriérés de leurs subsides pour un montant estimé à 25 milliards de francs CFA. Trop attendu, ils décident de passer à une vitesse supérieure. Des sittings et autres actions pacifiques seront organisées à partir du 9 juillet prochain pour revendiquer leur dû.
Nous allons poser des actions. S'ils veulent nous tuer, ils n'ont qu'à nous tuer. Parce que c'est un droit. Nous ne pouvons pas les laisser. Ça, ils s'étonnent largement. Et ils le verront d'ici le samedi, s'il plaît à Dieu.
Lui, c'est le coordonnateur national des maîtres communautaires du Tchad, Balayangue Jonathan. Il dénonce la mauvaise volonté du gouvernement tchadien dans la gestion et le traitement des maîtres communautaires qui, dit-il, ont servi l'État avec abnégation. Il pointe du doigt accusateur le ministère de l'Éducation nationale d'être à l'origine de leurs souffrances.
Le gouvernement veut seulement jouer avec les maîtres communautaires jusqu'à aujourd'hui. Tant que la situation n'est pas améliorée dans la semaine qui commence, nous allons mener des actions. Après les sittings, nous allons faire des marches. Nous ne comprenons pas ce que le gouvernement pense vis-à-vis des maîtres communautaires. Sinon, comment on peut comprendre que les gens qui ont travaillé pendant 25 mois, alors ce n'est pas 25 jours. Le ministère de l'Éducation nationale, et puis particulièrement le secrétaire général, ils ont observé un silence complice. Le ministère est défaillant devant cette situation. Le ministère de l'Éducation, qu'on lui a apporté cette main forte-là, doit expliquer en clair voilà où souffre l'éducation.
Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Diwulne Laurent, en est conscient de cette situation, mais déclare que son département n'a pas un interlocuteur crédible compte tenu de la division au sein de leur organisation.
La situation a été faite par le ministre de l'Éducation nationale à la primature. La primature a répercuté au niveau du ministère des Finances. Et le ministre des Finances a aujourd'hui l'affaire en main, en train de voir dans quelle mesure payer les maîtres communautaires. Mais le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas se mettre sur le toit pour dire aux maîtres communautaires, voilà ce que je suis en train de faire. Et je vous dis, aujourd'hui, la coordination des maîtres communautaires, nous ne savons pas laquelle fonctionne. La première coordination était affiliée à la CLTT. À partir de février ou mars, nous avons commencé à avoir des informations d'une seconde coordination. Au sein même des maîtres communautaires, il faut qu'ils s'entendent. Qui ne connaissent pas le maître communautaire mieux que moi. J'ai été maître communautaire avant d'être intégré à la fonction publique. Je sais ce que le maître communautaire et la considération que j'accorde à ces corps, mais ils ne le savent pas.
André Kodmajingar, Diamena pour VOA Afrique.
Numéro exceptionnel de Washington Forum sur l'esclavage, qu'il soit ancien ou moderne. Nous serons en présence de Biram Dahabeid, figure mauritanienne de la lutte contre l'esclavage, libéré le 17 mai dernier après 20 mois de prison, alors qu'au moins 14 membres de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ont été arrêtés cette semaine à Nouakchott. Alors la Mauritanie tient-elle un double discours sur sa loi anti-esclavage? Quelle est la situation ailleurs dans le monde? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le Premier ministre indien Narendra Modi entame aujourd'hui une tournée en Afrique australe. Il se rendra au Mozambique, au Kenya, en passant par l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Que représente cette visite dans les relations indo-africaines? John Lendon s'est entretenu à ce propos avec Niankoroye Samake, ambassadeur du Mali à New Delhi.
C'est une visite qui est la bienvenue et il est temps que les actions de l'Inde atteignent le niveau de leur ambition. Les relations indo-africaines aujourd'hui sont en train de se rapprocher à un niveau d'engagement direct entre l'Inde et l'Afrique. Aujourd'hui, la présence du Premier ministre indien sur le continent nous rassure et que l'esprit de la déclaration faite à New Delhi récemment en octobre 2015 a atteint un niveau d'exécution.
Alors, qu'est-ce que l'Inde peut offrir à l'Afrique?
Bon, l'Inde peut offrir à l'Afrique d'abord à différents niveaux. Au niveau bilatéral, les différents pays africains sont en train de tisser un partenariat stratégique avec l'Inde, surtout au niveau des échanges commerciaux. Au niveau régional aussi, il faut s'attendre à des lignes de crédit indiennes pour soutenir les entrepreneurs indiens à s'installer en Afrique, mais aussi au niveau africain, dans les différentes plateformes multilatérales, notamment aux Nations Unies et sur d'autres plateformes, il y a des soutiens mutuels entre l'Inde et l'Afrique.
Il reste que l'Inde en Afrique doit faire face à d'autres puissances, à d'autres pays. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, à la France. Quels sont ses atouts face à ces autres?
Bon, ses atouts, c'est que l'Inde et l'Afrique, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes des pays colonisés. L'Inde est en train de tirer sur ses valeurs communes pour se rapprocher de l'Afrique. Mais ce ne sont pas des relations mutuellement exclusives. Ça ne veut pas dire que l'Afrique a cette relation avec la Chine, les États-Unis ou l'Europe que nous ne pouvons pas développer un partenariat stratégique avec un pays émergent comme l'Inde. Et ils sont en train de bien jouer ce jeu-là. Comme vous l'avez vu, l'Inde a pu attirer en octobre dernier, lors du sommet indo-africain, plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Et cela veut dire que l'intérêt de l'Afrique pour l'Inde est en train de croître.
Niankoroye Samake, ambassadeur du Mali à New Delhi.
Dans l'Amérique et vous, cette semaine, les États-Unis ont célébré le 4 juillet leur fête nationale, la 240e du genre. Retrouvez les Américains d'origine africaine qui nous parlent de leur expérience dans leur nouvelle patrie. Vos commentaires et réactions sont aussi attendus sur Facebook. Rejoignez-moi, John Lyndon, ce vendredi à 19h, temps universel, en direct sur VOA.
Présidentielle américaine 2016, deux faits majeurs au programme ce jeudi. L'offensive de charme du candidat républicain présumé, Donald Trump, en direction des législateurs de son parti au Congrès. Et côté démocrate, le directeur du FBI, James Comey, témoignant au Congrès au sujet de sa décision de ne pas suggérer des poursuites judiciaires contre la candidate démocrate présumée, Hillary Clinton, en rapport à l'utilisation d'un serveur privé pour ses communications au département d'État. Commençons par Donald Trump.
Et oui, Trump a eu sa première rencontre privée avec les républicains de la Chambre des représentants et du Sénat dans une tentative d'unifier le parti à moins de deux semaines de sa convention. Preuve que Trump a du pain sur la planche, certains républicains ont tout bonnement esquivé la rencontre pour exprimer leur désaccord avec lui.
Alors, quels sont les griefs de certains républicains contre Donald Trump?
Leur principal reproche est qu'il est un conservateur de fraîche date, pire, un nouveau converti qui nage à contre-courant des principes conservateurs. Il reproche ainsi à Trump d'avoir soutenu des démocrates comme Mme Clinton par le passé et aujourd'hui d'épouser certaines positions démocrates. Par exemple, alors que les républicains militent pour une réduction du rôle du gouvernement dans la gestion de la chose publique, Trump suggère que dans certains cas, ce rôle doit être renforcé, comme dans l'administration de l'assurance maladie. Autre problème, Trump s'est mis à dos les Hispaniques, les musulmans et d'autres minorités, ce qui, de l'avis de ses adversaires républicains compromet l'avenir du parti, puisque ces groupes vont continuer de voter pour les démocrates.
Alors venons-en au témoignage du directeur du FBI, James Comey, au Congrès, au sujet de la gestion des emails, les communications de Mme Hillary Clinton du temps où elle était secrétaire d'État.
Et cette controverse tourne autour de l'utilisation par Mme Clinton d'un serveur privé non sécurisé pour recevoir et envoyer des emails professionnels, ce qui pourrait avoir exposé au piratage des informations classées top secret. Après une enquête du FBI, le directeur de cette police fédérale, James Comey, a dit qu'il ne va pas suggérer des poursuites judiciaires contre Mme Clinton, bien qu'à son avis, cette dernière et ses collaborateurs au département d'État ont fait preuve de grande négligence. Pour les démocrates, cette opinion du premier policier du pays devrait clore le débat. Mais ce n'est pas l'avis des républicains qui ont bombardé le directeur du FBI de questions pointues auxquelles il devait répondre par oui ou non. James Comey a été ainsi amené à admettre qu'un agent du FBI qui aurait traité des informations ultra-secrètes de la même manière que Mme Clinton se serait exposé à une gamme de sanctions allant du simple blâme à la révocation. Les républicains ont saisi la balle au rebond pour affirmer que Mme Clinton a bénéficié d'un traitement de faveur dans cette affaire. Réponse des démocrates, c'est une querelle politique qui n'a pas de raison d'être.
Merci Timothée Donokmaï, notre rédacteur en chef ici à VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'image de la police américaine de nouveau écornée. Une vidéo montrant les derniers moments de noir abattu par un policier dans le Minnesota est devenue virale sur Internet. Quelques jours après une affaire comparable en Louisiane. En fait, un jour après, ceci a réveillé le spectre du racisme et des brutalités de la police américaine. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint en Floride Marc Elias, un ancien chef de police.
Pour tirer quelqu'un, juste parce qu'ils vont derrière pour prendre leur portefeuille, ça c'est très difficile. Mais en même temps aussi, il faut voir qu'on n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la voiture. On ne sait pas si le type, lorsqu'il est retourné pour prendre son portefeuille, est-ce que l'homme à feu était près de la portefeuille? Donc, il y a toujours des questions à poser. Mais est-ce que l'officier pouvait faire ça mieux? Moi, je peux te dire, comme un instructeur de police, et c'est arrivé plusieurs fois avec moi-même, où le type me dit, ah bon, écoute, j'ai un permis, j'ai un homme à feu, ok, pas de problème, mettez vos deux mains sur le volant. Donc après, j'appelle d'autres policiers pour m'assister. Les départements de police ne font pas assez d'entraînement. Avec une société qui change constamment, l'officier également doit s'entraîner à s'adapter à la société qu'il est en train de servir.
Il y a beaucoup d'anciens militaires qui se retrouvent dans la police et on sait qu'ils ont la gâchette facile. Est-ce que cela constitue une partie du problème?
C'est difficile à dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant d'être un policier, j'étais dans l'armée américaine pendant 4 ans. Tout ça vient de l'entraînement. Il y a 2 types de mentalité. Étant qu'un officier de l'armée, ma mentalité est différente parce que je suis là pour protéger mon pays. Mais un officier, la mentalité change, tu es là pour protéger le peuple que tu es en train de servir. Et par exemple, lorsqu'on parle non seulement de l'incident à Minnesota, on parle de ce qui est arrivé en Louisiane. Ça, you know, j'ai vu les vidéos, je veux vous dire franchement, Allah, étant qu'un chef de police, et je m'excuse, mais l'officier a tort. Et je dois être d'accord un peu que les polices doivent réfléchir avant de retirer l'arme à feu ou de brandir l'arme à feu.
Ce sont des incidents qui reviennent très souvent et les victimes presque les mêmes. Comment la police peut-elle redorer son image et inspirer confiance?
Je vais vous donner un exemple que quand j'étais à North Miami, ce que j'avais fait, j'avais une équipe, des conseillers, par exemple, de l'église, des conseillers civils, que je parlais avec constamment chaque semaine pour me dire, bon, voici ce qui arrive, comment on peut faire.
Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami en Floride.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot à la mise en onde, Nachwan Kané à la console, Morgane Guerriac et Chérubin Dorcil à la présentation.
Ainsi vint le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.